Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Espace vert, bel âge plus et l'actualité. Au programme, le Saint-Laurent sous respirateur, papillon sous observation et quel régime pour vivre plus vieux. Bonne écoute.
Le Saint-Laurent sous respirateur, un texte de Nathalie Schneider paru dans Espace vert. Spectaculaire et saisissante, l'artère fluviale du Québec est l'une de ses plus précieuses richesses. Toutefois, des actions concrètes doivent être menées pour faire face aux menaces qui planent sur sa santé. Où que tu vives au Québec, tu fais partie d'un bassin versant ou d'un cours d'eau qui va se déverser dans le fleuve, fait remarquer Billy Jazz Marcuzzo-Roy. Chaque action que tu poses a des répercussions sur l'environnement. L'éco-éducatrice est aussi la co-réalisatrice du récent moyen-métrage « Dérive, regard sur le fleuve », qui raconte son parcours depuis la Manganie jusqu'à Montréal, à la rencontre des gardiens du fleuve, scientifiques, écologistes et militants. Ceux-ci dressent un portrait sans concession d'un des plus grands fleuves de la planète, mis à mal par les activités industrielles et par les changements climatiques. Pesticides, hydrocarbures et micropolluants, charriés par les rivières, s'y déversent, faute de traitement adéquat. En prime, l'augmentation substantielle du trafic maritime perturbe le comportement de la faune marine, notamment les baleines qui se déplacent et communiquent entre elles par écholocation. L'amplification sonore causée par le passage répété des cargos affecte leurs échanges, au point qu'on n'observe quasiment plus de naissances, notamment chez la baleine bleue. Contaminant, nouvelle génération. Le Saint-Laurent est-il à ce point en mauvaise santé? Avant la décennie 1990, année durant laquelle des opérations d'assainissement des eaux usées ont été menées, l'état du fleuve était bien plus dégradé qu'aujourd'hui. Au fil du 20e siècle, l'industrialisation et l'urbanisation croissante ont généré des rejets massifs de contaminants qui favorisent l'accroissement des algues, explique Philippe Maisonneuve, biologiste et chargé de projet à la Fondation Rivière. C'est sans compter les métaux déversés par des industries comme les mines, les manufactures et les entreprises de pâtes et papiers, pas toujours filtrés préalablement à l'usine. Des progrès ont alors été réalisés dans le traitement des eaux à l'échelle municipale dans les années 1990 autour du bassin versant du Saint-Laurent. Malgré ces progrès, 30 ans plus tard, la situation s'est largement dégradée en raison de la croissance de la population et des activités, mais pas seulement. Les stations d'épuration sont devenues désuètes, ajoute Philippe Maisonneuve, parce qu'on observe aujourd'hui des contaminants qu'on ne soupçonnait pas il y a 30 ans, comme les composés perfluorés, des groupes de molécules utilisées dans de très nombreux objets de la vie courante et qui se dégradent très mal dans l'eau. Ces contaminants éternels sont désormais partout, cours d'eau, rivières et fleuves. C'est en réduisant à la source l'utilisation de ces contaminants que se trouve la solution, leur traitement demeurant très complexe. Donnez-moi de l'oxygène. La situation la plus problématique se situe dans les eaux salées du fleuve. Même si la section d'eau douce reste en équilibre précaire à cause des contaminants agricoles, souligne André Bélanger, directeur général de la Fondation Rivière. On note, entre autres observations, une augmentation des plantes exotiques et des mollusques envahissants, comme le roseau commun ou la moule zébrée, qui modifie l'équilibre marin. C'est sans parler de la carpe asiatique, qui mange tout sur son passage, renchérit André Bélanger. Plus encore, un phénomène a été révélé dans le fleuve il y a quelques années. L'hypoxie, ce manque d'oxygène qui annonce la disparition de la vie dans le golfe, à cause des rejets agricoles, le phosphore et l'azote surtout, déversés par des effluents comme la rivière Yamaska. L'azote stimule la croissance des algues et du plancton dans les eaux profondes. À la fin de leur vie, ces organismes coulent en profondeur et sont dégradés par des bactéries qui y consomment beaucoup d'oxygène. L'hypoxie s'explique aussi par des perturbations mécaniques, notamment par l'entremise des grands courants océaniques. Le Gulf Stream, moins chargé en oxygène que le courant du Labrador, prend plus de place dans l'embouchure du Saint-Laurent, ce qui réduit l'apport d'oxygène dans les eaux profondes du golfe et de l'estuaire, résume Philippe Maisonneuve. Ce phénomène est accentué par le réchauffement des eaux de surface causé par les changements climatiques. Eau chaude en surface et eau froide en profondeur peinent à se brasser, ce qui nuit au réapprovisionnement en oxygène. Ce phénomène s'observe partout sur la planète, avec les conséquences qu'on connaît, notamment l'augmentation du niveau de la mer. Pour réduire l'hypoxie, il faut amorcer des changements de pratiques dans le milieu agricole et s'atteler à la lutte contre les changements climatiques. Vous écoutez « Le Saint-Laurent sous respirateur » un texte de Nathalie Schneider paru dans Espace vert. Une meilleure connaissance. Pour autant, on mesure mieux aujourd'hui ce qui se passe dans le fleuve, notamment depuis la publication d'un bilan de santé du Saint-Laurent par l'organisme à but non lucratif Stratégie Saint-Laurent. Équilibre fragile, y revient en leitmotiv. La mission de l'organisme? Remettre le Saint-Laurent au monde. C'est que cet équilibre fragile se traduit par une menace considérable sur la faune marine, notamment sur les bélugas et les fous de bassin. Néanmoins, depuis l'instauration en 2007 de l'Alliance verte pour l'industrie maritime, un programme volontaire pour amener l'ensemble des acteurs maritimes vers l'excellence environnementale dans le fleuve et les grands lacs, on commence à en mesurer les effets positifs. L'Alliance verte va plus loin que les réglementations mises en place par les différents ordres de gouvernement, explique Marie Cadieux, coordonnatrice en conservation marine à la Société pour la nature et les parcs, SNAP, du Canada, section Québec. Pour légiférer sur le trafic des bateaux de croisière, par exemple, il n'y a pas de cadre légal au fédéral. L'Alliance resserre les règles à ce niveau-là. Le programme s'est révélé à ce point concluant qu'il s'est exporté, en 2019, jusqu'en Europe. La vision des politiques. Le dernier engagement du gouvernement provincial, Avantage Saint-Laurent, la vision maritime du Québec, entend faire de la voie maritime un corridor économique performant dans le respect des écosystèmes concernés, une vision que Véronique Bussière, à SNAP Québec, considère comme un pas en arrière comparativement à l'ancienne stratégie maritime de 2015, puisque les investissements dans la biodiversité concernent uniquement la recherche, soutient-elle. Cet engagement fait peu écho à celui qui a été pris, en 2022, à la conférence des parties, COP15, à la Convention sur la diversité biologique, CDB, d'étendre à 30 % de protection des milieux tant marins que terrestres d'ici 2030, afin de réduire les menaces qui planent sur le Saint-Laurent. Nous voulons des actions concrètes, car il n'existe pas de feuille de route à cet égard au Québec, insiste Marie Cadieux. Cela doit passer par une concertation avec tous les utilisateurs du milieu marin. La vision de SNAP Québec, remettre la protection de la nature au cœur des actions, même sur les 70 % de milieux marins qui sont non protégés. Autrement dit, il faudrait anticiper ces menaces plutôt qu'y faire face, en vertu du principe de précaution. Certes, la double juridiction provinciale et fédérale de la protection du Saint-Laurent vient complexifier les avancées. En vertu d'une entente de collaboration conclue en 2017, les deux instances ont tout de même mis sous protection des secteurs de l'estuaire du Saguenay et de la rivière Saguenay, qui totalisent 5 000 km². Cela devrait augmenter le périmètre du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent de manière substantielle pour poursuivre la mission de protection des espèces en péril, par exemple les bélugas, dont il reste environ 800 individus. D'autres secteurs sont ciblés pour maintenir la biodiversité des aires d'alimentation des mammifères marins, comme les rorquals communs et les baleines noires, qui viennent s'y nourrir depuis les dernières années. Le fleuve, personnalité juridique? Les collisions avec les navires de passage ont donné lieu à des mesures volontaires de ralentissement suggérées par Transport Canada et Pêche et Océan Canada, mesures qui ont exercé un impact positif visible, remarque Marie Cadieux, d'autant que le pilote qui tracte ces navires, c'est souvent un gars de Baie-Comeau ou du coin. Il ne faut pas sous-estimer la conscience de ces gens devant la nécessité de protéger leur environnement. Encore faut-il l'arrimer avec un statut suprême qui fasse du fleuve une personnalité juridique, sur le modèle de la rivière Magpie. C'est ce que réclame l'Alliance Saint-Laurent, créée en 2022 par l'Observatoire international des droits de la nature, comme le montre le documentaire « Dérive, regard sur le fleuve ». La même année, des projets de loi ont été déposés à l'Assemblée nationale et au Parlement canadien. Bref, la protection de notre fleuve pourrait bien passer par la voie légale. C'était « Le Saint-Laurent sous respirateur », un texte de Nathalie Schneider paru dans Espace vert.
Papillons sous observation. Un texte de Jessica Dosti, paru dans le magazine Bel Âge Plus, mai-juin 2023. Les monarques sont en voie de disparition, assure l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui a mis le papillon noir et orange sur sa liste rouge des espèces en danger. Durant toute la belle saison, on peut toutefois faire notre part à leur égard. On fait le point sur Mission Monarque, un programme de science citoyenne mis sur pied par l'Insectarium d'Espace pour la vie en 2016 afin de documenter les allées et venues des populations migratoires de monarques. Comment ça fonctionne? Tout le monde peut participer, affirme en entrevue Alessandro Dieni, chercheur et chargé de projet du programme Mission Monarque. En ville ou à la campagne, on repère d'abord les endroits où pousse l'asclépiade, familièrement appelée petit cochon, que ce soit dans un champ, un jardin aménagé ou au bord d'un sentier. On examine ensuite les feuilles et les fleurs, afin d'y repérer des chenilles ou des monarques. Il reste à se créer un compte sur le site Internet de Mission Monarque et à remplir le formulaire d'observation sur le terrain après chaque promenade. En ligne, l'équipe de recherche a également mis à la disposition des participants une trousse de missions, comprenant des fiches d'identification fort utiles pour éviter toute confusion avec d'autres espèces. Pour identifier les œufs, une loupe est aussi recommandée. Quand peut-on partir en mission? Si les monarques arrivent au Québec après leur long vol migratoire vers la mi-juin, on peut commencer à noter des observations dès la mi-mai, quand les asclépiades commencent à sortir de terre. Même si les monarques ne sont pas encore arrivés, c'est possible et utile de le faire, fait valoir le chercheur. Ajoutant que le plus grand nombre d'individus est habituellement observé à la fin du mois de juillet ou au début d'août. En septembre, ou dès qu'on se rapproche du point de congélation, les monarques se préparent à migrer. Il arrive qu'on en voit jusqu'en octobre, mais c'est exceptionnel. Où aboutissent les données recueillies? Toutes les observations des participants à la mission sont compilées, puis analysées. Notre but est de mieux comprendre où se trouvent les points chauds de reproduction, précise Alessandro Dieni. Si on veut protéger des sites de reproduction des monarques, il faut savoir où ils sont situés. Les données sont d'ailleurs accessibles au public, en ligne, grâce à une carte interactive recensant toutes les observations. Plus de 5000 pour le sud de la province, au moment de mettre sous presse. Pour participer, mission-monarch.org. L'asclépiade au jardin. Cette fleur n'a rien d'une mauvaise herbe. En plus de faire œuvre utile pour la survie des monarques, cette vivace indigène du Québec est dotée de jolies fleurs en ombrelles qui produisent un bel effet en plus d'attirer les pollinisateurs. Attention toutefois, parce que l'asclépiade commune peut devenir envahissante. On lui préfère dans les jardins l'asclépiade incarnate, plus délicate. C'était « Papillons sous observation », un texte de Jessica Dosti, paru dans le magazine Bel Âge Plus, mai-juin 2023.
Quel régime pour vivre plus vieux? Un texte de Catherine Dubé, paru le 9 mai 2023 dans l'actualité. Régime méditerranéen, végétalisme, guide alimentaire, sur le fond, toutes ces formes d'alimentation équilibrée contribuent à vivre vieux et en santé, révèlent des chercheurs de Harvard. Pour vivre longtemps, mieux vaut adhérer aux grands principes d'une alimentation santé, et s'y tenir jour après jour, plutôt que de tenter à tout prix d'adopter le curcuma, le chou ou le dernier aliment à la mode. Et pas besoin de se casser la tête pour choisir entre le régime méditerranéen, le végétalisme et le guide alimentaire. Ces types d'alimentation sont tous associés à un risque faible de mourir de façon prématurée, selon une équipe de chercheurs de l'Université Harvard. Les résultats de cette étude d'envergure, près de 120 000 personnes suivies pendant 36 ans ont été publiées dans le Journal of American Medical Association, c'est le JAMA, Internal Medicine en janvier dernier. Un des aspects intéressants de l'étude, c'est que les chercheurs ont évalué des profils alimentaires et non pas des aliments isolés, dit Benoît Arsenault, professeur à l'Université Laval et chercheur associé à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de la même université, à qui l'actualité a demandé de commenter l'étude. 4 profils alimentaires étudiés. Tous les 4 ans, les participants ont rempli un questionnaire sur leurs habitudes alimentaires, ce qui a permis aux chercheurs d'estimer à quel point elles correspondaient à l'un ou l'autre de 4 types d'alimentation santé: le régime méditerranéen, le végétalisme, le guide alimentaire américain et l'indice alternatif d'alimentation saine. Cet indice a été créé par des chercheurs de l'École de santé publique de Harvard pour refléter la présence au menu des aliments les plus solidement associés à l'absence de maladies chroniques. Avoir des légumes au menu donne des points, alors que des boissons gazeuses et de la viande rouge en enlèvent, par exemple. Ces divers profils alimentaires se rejoignent sur le fond, souligne Benoît Arsenault. Ils consistent tous à consommer beaucoup de fibres et de produits à grains entiers, des protéines végétales comme des légumineuses, beaucoup de fruits et légumes, et à éviter les boissons sucrées. Les différences sont à la marge. Le régime méditerranéen se distingue par la présence de plus de gras mono et polyinsaturés provenant de poissons, de noix et de l'huile d'olive, entre autres. L'alimentation végétarienne évite, pour sa part, les produits d'origine animale, dont les fromages et autres produits laitiers. Il est à noter que les chercheurs ont évalué une alimentation végétalienne santé, c'est-à-dire équilibrée. Manger des tonnes de riz et 0 légumes, c'est végé, mais pas équilibré. Et le moins possible d'aliments ultra-transformés comme des saucisses à hot-dog végé. Quant au guide alimentaire américain, c'est un proche cousin du guide alimentaire canadien. Et ce dernier, revu de fond en comble en 2019, après des années de discussions d'experts, reflète d'ailleurs bien les consensus actuels en matière de nutrition, fait remarquer le chercheur de l'Université Laval. Ce nouveau guide insiste un peu plus que l'ancien sur l'importance des végétaux dans l'assiette et conçoit que l'on peut vivre sans consommer de produits laitiers, entre autres choses. Il a cependant un angle mort. Ses recommandations sont basées sur les préférences alimentaires des populations occidentales, note Benoît Arsenault. On dit à tout le monde comment manger, y compris à des populations immigrantes, sans tenir compte de la culture, des préférences et des habitudes. Vous écoutez « Quel régime pour vivre le plus vieux ?» un texte de Catherine Dubé, paru le 9 mai 2023 dans l'actualité. C'était d'ailleurs là un des buts principaux de l'étude des chercheurs de Harvard, démontrer que l'on peut vivre vieux et en santé avec différentes approches alimentaires. Un peu plus de noix, un peu moins de fromage, ce n'est pas ça qui changera vraiment les choses au bout du compte. Le plus important, c'est de bien choisir les aliments de base, ceux qui reviennent dans l'assiette à tous les repas, c'est-à-dire les fruits, les légumes, les grains, etc. Et de nombreux modèles d'alimentation saine peuvent être adaptés aux traditions et aux préférences alimentaires de chacun, écrivent les chercheurs. Les résultats sont sans équivoque. Plus on adhère rigoureusement à l'un des 4 profils alimentaires étudiés, peu importe lequel, mieux on se porte. Au bout des 36 ans de suivi, les participants, respectant le plus les principes de l'un ou l'autre des modèles, avaient grosso modo un risque 20% plus faible que les autres d'être décédés en cours de route d'une maladie chronique cardiovasculaire ou respiratoire ou encore d'un cancer. Le régime méditerranéen et l'indice alternatif d'alimentation saine étaient aussi associés à un risque plus faible de mourir d'une maladie neurodégénérative comme l'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, et ces résultats s'appliquaient à différents groupes ethniques. Les bémols. Les études de ce genre n'établissent pas de lien de cause à effet entre l'alimentation et la santé. Il s'agit d'études d'association. Les chercheurs observent la présence ou l'absence de maladies chroniques et de décès, puis ils notent si certains sous-groupes de participants en comptent davantage en fonction de variables telles que l'alimentation. mais il est impossible de savoir si c'est bel et bien le contenu de l'assiette qui a maintenu les gens en bonne santé. C'est ce qu'on appelle un biais de confusion en recherche. Les personnes qui ont un score élevé d'alimentation saine diffèrent des gens qui ont un score plus faible par leur adhésion à une alimentation de qualité, bien sûr, mais pas seulement par cela, précise Benoît Arsenault. Les chercheurs font des ajustements statistiques pour tenir compte, entre autres, de la consommation d'alcool, du tabagisme ou de l'activité physique. Néanmoins, cela peut occulter une partie de la réalité. La longévité s'explique notamment par le choix d'aliments que l'on met sur sa table au quotidien, mais également par une foule de facteurs socio-économiques comme les liens sociaux et les revenus qui ont par la bande une influence sur l'alimentation, mentionne le chercheur. Chacun a un rôle individuel à jouer pour prévenir l'apparition de maladies chroniques et c'est important de dire aux gens d'adhérer aux recommandations nutritionnelles. Mais il faut aussi que, collectivement, on se donne les moyens d'améliorer l'accès à une alimentation de qualité en diminuant le prix des fruits et des légumes et en s'attaquant aux déserts alimentaires. Il ne faut pas juste sermonner les gens sur leur alimentation, conclut-il. C'était « Quel régime pour vivre plus vieux ?» un texte de Catherine Dubé, paru le 9 mai 2023 dans L'Actualité.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.qc.com. Cette émission est rendue possible grâce à André Lebeau, Claire Darion et Serge Hamelin à la lecture, Anne Hébert et Daniel Veillette à la recherche, Nicolas Svartman à la présentation et au montage.